Allô, allô, allô, mais ça module pas le PG. Là, là. Dicotylé d'onde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté à l'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les émissions et leurs références sur radiogalère.org.
Dicotylé d'onde, c'est tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, en ligne ou sur 88.4.
Papa.
Dicotylé d'onde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté à l'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les émissions et les références sur radiogalère.org.
Dicotylé d'onde, c'est tous les quatrièmes mardis du mois de 15h à 16h en ligne ou sur 88.4.
Bonjour, vous êtes sur les ondes de Radio Galère, sur 88.4 sur la modulation de fréquence, et aussi sur le DAB et sur Internet, sur le site de la radio. Et nous sommes aujourd'hui, donc, en présence de Roselyne, que je remercie, qui va être de l'autre côté du miroir, mais à son micro aussi. Et on attend l'arrivée d'Habib, qui ne va pas tarder. Je vais commencer par cette émission, par vous parler de Radio Galère en tant que telle. C'est pas fréquent, mais comme la Radio Galère a tenu son Assemblée Générale ce samedi, je veux vous en dire un mot, parce qu'on n'en parle pas souvent. Radio Galère, il faut vous l'expliquer, est une radio gérée par une association, loi de 1901, avec tout ce que ça suppose d'organisation, de comptes, etc., de salaire. Bon. Et donc, je voulais vous donner le bulletin de santé un petit peu de cette radio, parce qu'elle a un certain âge, plus de 20 ans, et donc c'est intéressant de vous en parler, puisque vous l'écoutez régulièrement, et que vous souhaitez, comme nous, qu'elle dure, qu'elle ait une longue vie. La longue vie, ça veut dire avoir aussi des finances en équilibre. Alors l'équilibre des finances, et c'est là-dessus que je voulais intervenir, bien sûr, il y a des cotisations des adhérents, mais qui, de très très loin, ne suffisent pas à l'équilibre des finances. Et comme la quasi-totalité des radios associatives et comme beaucoup d'autres structures associatives dans la société française, il y a besoin de subventions de collectivités territoriales ou de l'État. Ça, vous l'avez tous compris, et toutes les associations le vivent, surtout celles qui ont des salariés à payer à la fin du mois. La particularité des radios associatives comme Radio Galère, c'est que le ministère de la Culture lui-même a un fonds d'aide à ces radios associatives qui s'appelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc, terme très très général. Et en fait, il a donc le ministère de la Culture a une somme d'argent dans son budget qu'il distribue chaque année à toutes les radios qui ont une activité régulière. Bien entendu, il ne distribue pas ça au hasard et vous imaginez que le ministère, pas le ministre lui-même, mais le ministère, se rend compte, parce qu'il a accès à toutes nos émissions, peut les écouter, peut les critiquer, se rend compte du travail fait ou du travail bien fait ou du travail mal fait. Bon. Il se trouve, et j'insiste là-dessus parce que je n'y suis pas pour grand-chose, que depuis la création de ce fonds pour le soutien à l'expression radiophonique, Radio Galère a une bonne note. Pourquoi une bonne note ? Parce qu'effectivement, il est dans la liste de ceux qui reçoivent l'argent du ministère de la Culture, une des radios les mieux dotées. Ce qui veut dire que, du point au niveau national, au niveau du ministère de la Culture, il est considéré que la radio fait un travail important dans le domaine de l'éducation populaire, de soutien à la politique de la ville, toute une série de choses. Bon, tant mieux, et j'allais dire, pourvu que ça dure. Alors c'est là que je voulais en venir, parce que pourvu que ça dure, ça veut dire quoi ? Ben, le ministère de la Culture, il a un budget qui est proposé dans le budget, dans le cadre du budget général, au vote du Parlement, dans le cadre d'un budget gouvernemental global. Bon, on sait que le ministère de la Culture n'a pas un très très gros budget, mais pour nous, c'est très très important que le fonds de soutien à l'expression radiophonique continue à être bien doté. Premier point. Deuxième point, que le fonds de soutien à l'expression radiophonique ne nous oublie pas dans ses prières, comme on dit. Bon. Et là-dessus, je voulais vous signaler nos inquiétudes. Il se trouve qu'au moment où le gouvernement Barnier a présenté son budget, qui n'a pas été approuvé, vous le savez, Madame Rachida Dati, qui était ministre de la Culture et qui l'est restée dans le gouvernement Bayrou, a annoncé qu'elle allait un peu regarder à qui allait cet argent de son budget à elle. Et on a senti du Trump dans l'air, vous savez, je vais revoir toutes les aides de USAID, etc. On a senti qu'il y avait une menace. Et d'ailleurs, dans les débats parlementaires, il a été noté qu'un certain nombre d'élus considéraient que des choses qui se disaient sur certaines radios, sans citer nommément Radio Galère, ne méritaient pas d'être subventionnées par les subventions publiques. Donc il y a une réelle menace. Une réelle menace, parce qu'il ne s'est rien passé, puisque M. Bayrou a laissé passer le budget sans retoucher le budget du ministère de la Culture. Mais Mme Dati est toujours à ce poste de ministre de la Culture. Et on peut craindre des suites, c'est-à-dire il y aura, quel qu'il soit, et ça tout le monde fait des hypothèses, mais je ne vais pas me livrer à ce petit jeu, il y aura un nouveau gouvernement, après probablement une nouvelle dissolution au mois de juin. Et le cas... Vu ce qui s'est dit à l'Assemblée, vu la position de Mme Rachida Dati, le cas du fonds de soutien à l'expression radiophonique reviendra inévitablement sur le tapis. Et j'allais dire, plus la majorité gouvernementale sera à droite, plus le risque sera fort. Il faut que nous soyons bien conscients. Donc Radio Galère a échappé pour cette année 2025 aux coupes budgétaires, mais il n'est pas évident que la suite sera aussi rose, si j'ose dire. Bon. Donc il est bon que vous le sachiez, d'autant plus que je m'arrête quand même sur le personnage de Madame Dati, qui, on le sait, postule pour la mairie de Paris, qui, on le sait, dans ses positions pro-marocaines, soutient le gouvernement arabe le plus sioniste qui existe sur la planète. Bon, il faut le soutenir aussi. Donc elle est ultra-colonialiste, pro-sioniste, etc. Donc on peut effectivement craindre tout. Et quand dans les émissions de Comaguer ou dans toutes les émissions de Radio Galère où on parle de la Palestine, ça ne lui plairait certainement pas. Donc attention, la censure n'a pas frappé, mais elle est dans les coulisses, elle est prête. Alors ça dépendra bien sûr du résultat des élections, mais je voulais vous signaler ce danger. Donc la radio, pour l'instant, va bien. L'exercice 2024 s'est passé de façon satisfaisante. Bon, mais la menace est là et elle est très très forte. Parce que les débats parlementaires ont montré qu'il y avait des gens qui disaient « Mais pourquoi on donne la parole à ces gens-là » Alors ils ne nous donnent pas la parole, heureusement, on parle tout seul. Mais voilà, on nous la prend et on nous coupe le micro. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, c'est comme ça que ça pourrait se passer. Nous n'en sommes pas là, mais nous avons l'œil très très ouvert sur ces questions-là. Car Madame Dati, et elle a beaucoup de semblables dans les allées du pouvoir, surtout dans la partie la plus à droite du pouvoir, qui est à la limite de la droite extrême, on ne sait plus trop où est la frontière, vous le savez, M. Retailleau lui-même, on ne sait pas s'il est de droite ou d'extrême droite, etc., etc. Tout ça, je n'interviens pas là-dessus, vous le suivez quotidiennement, on s'en rend compte. Donc effectivement, la menace pour la liberté d'expression, je place ça dans un contexte général, elle est forte. Ils n'ont pas frappé encore. Ils sont très capables de faire et ils ont envie de le faire. Alors, je leur dis, nous avons envie aussi de nous défendre. Hein, et nous ne lâcherons rien, nous non plus. Qu'on se le dise. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur l'Assemblée générale de Radio Galère. Mais ça méritait d'être dit parce qu'il y a une Assemblée générale annuelle, comme dans toutes les associations. Nos comptes sont en ordre, le budget est en ordre, en équilibre, même très très léger suréquilibre, donc c'est tant mieux. Hein, mais ça pourrait ne pas durer. Donc maintenons notre outil, honorons-le, travaillons le plus proprement possible que nous pouvons, défendons nos points de vue. Et nous allons dans la bonne direction, celle du défense de la liberté d'expression. Voilà. Bonjour Habib. Bien bonjour Habib, merci d'être là. Voilà. Donc je voulais, après cette introduction sur Radio Galère, puisque c'était le moment de le faire et de le dire, à la suite de l'Assemblée générale de la radio, je voulais que nous parlions de la Syrie, puisque tu nous as préparé, nous avez concocté une nouvelle radio.
Je voulais dire quelque
chose. Vas-y.
Je voulais dire quelque chose à cette radio. Que tout le monde l'entende. Vous êtes au courant, un rabbin a été mordu. Il a été mordu par un adolescent.
Mon Dieu.
Quel crime ! Quel crime ! Les médias français, ils parlent pendant 3-4 jours. C'est invraisemblable. En 48 heures, ils leur ont donné la permission d'aller manifester, alors que moi, ça fait 15 jours, j'attends l'autorisation.
Voilà, et oui.
Alors, les médias français, ils ont même très peu parlé de 100 000 morts à Gaza.
Voilà, non, non.
C'est scandaleux. Ouais. En Syrie, il y a eu une épuration ethnique.
Qui est en cours.
Ils ont
qui
se... très peu parlé.
Très peu
et
parlé.
Et on déroule le tapis pour M. Giuliani.
Voilà,
à
bien
Paris.
Sûr. Il n'a pas été mordu, lui, non?
Non, lui. Alors, je regrette vraiment.
Voilà,
je suis français, mais alors, je ne comprends pas le droit de l'homme. Je ne comprends pas ce pays. Je suis resté vraiment stupéfait.
Stupéfait, même choqué.
Voilà,
choqué.
C'est tout ce que j'ai à dire.
Non, non, mais...
Comprenez, regardez ce que les médias français. BFM TV, France 20, France Info, etc. On n'en parle pas. Ah, pas le, rabbin a été mordu à l'épaule par un adolescent.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avant?
On sait pas. Non, j'avais ça sur le cœur à le dire.
Non, non, mais il faut le dire, parce qu'on parle de liberté d'expression. C'est ça, la liberté d'expression. Ouais. C'est empêcher de donner l'importance aux sujets les plus importants. Et occuper l'espace médiatique, bourrer l'espace médiatique avec du secondaire, du spectaculaire, sans intérêt. Parce que je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'est pas à l'échelle des 100 000 morts à Gaza. Ça n'est pas à l'échelle des centaines qui sont morts la dernière nuit.
On dirait que c'est des poussières.
Exactement. Donc c'est ça, la manipulation politique de l'opinion par tous les médias qui sont coordonnés, qui disent pratiquement... Enfin, heureusement qu'il y a Radio Galère et quelques autres, parce qu'autrement, qu'est-ce que vous pouvez écouter en dehors de... Moi, je vais pas... On va pas passer 30 secondes sur l'histoire du rabbin mordu. Qu'est-ce que...
Ouais, je vais
mais,
dire,
non, moi, mais tu as bien fait.
C'est,
voilà.
C'est une image incroyable.
Tout à fait, voilà. C'est ça de le bain dans lequel...
Je regrette pour le rabbin. Hein.
Bon, oui, mais bien sûr. Bon, j'espère pas... que le petit garçon n'avait pas la rage, c'est tout. mais voilà. Mais
ou qu'il n'a pas attrapé une maladie.
C'est lui. Ben, qui sait. Ah, oui, qui sait. Voilà. Et donc, non, c'est bien, mais c'est un cas très, très concret où voilà, l'énorme déformation et donc l'appareil idéologique d'État est là pour déformer l'opinion. C'est-à-dire donner de l'importance
exactement,
à quelque chose qui n'en a pas.
Exactement.
Voilà. Et donc ça, il faut que nous le sachions. Et ça donne d'autant plus de prix à l'équilibre financier et à la défense de la liberté d'expression sur Radio Galère. On est en plein dans le sujet. J'avais pas pensé, tu vois. C'est des choses, à la limite, je les regarde plus, ces annonces BFM, machin et tout.
Bon. Non, parce que ça m'a frappé pendant
non, mais tu as raison. Mais c'est vrai que c'est tous les jours tu pourrais avoir un coup de sang en disant encore passer du temps pour parler de ceci ou de cela qui n'a aucun intérêt.
Et référons-nous à ton émission sur Bolloré, hein, patron de médias, et
ben voilà.
comme d'autres, qui brident les paroles.
Bien sûr. Ben bien sûr.
Exactement.
Donc, on en est là. Alors, donc, parle-nous quand même de la Syrie, puisque donc, tu attends l'autorisation de la préfecture de police pour un rassemblement ce samedi.
Oui, le 29.
Voilà, samedi 29.
29 mars à 14h, comme la fois passée.
Devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Alors, pourquoi
j'attends cette autorisation pour pouvoir quand même s'organiser,
bien
faire
sûr.
Des banderoles. Bon. Eh bien, on ne sait pas.
Non, mais ça va venir. Donc, la première a été autorisée,
bon,
je pense.
Oui, d'après ce que j'ai entendu, que la première a été bien passée, que c'était autorisé, et que le week-end, samedi, dimanche, il n'y a pas grand-chose à Marseille. Voilà,
c'est ça. Ouais,
donc,
parce que,
à mon avis, c'est...
Voilà. Oui, on peut imaginer à la préfecture de Lille, quand il y a trop de manifestations, c'est gênant pour le maintien de l'ordre, pour le maintien des effectifs, les CRS, etc.
Voilà. Alors on appelle beaucoup du monde qui viennent. Il y a une épuration ethnique en Syrie abominable.
Qui continue.
D'ailleurs, bon, on ne sait pas très bien, qui continue d'ailleurs. Et heureusement que la base aérienne russe. Elle a été ouverte et environ plus de 12 000 personnes, toutes les villages environnantes, avec des belles tentes, des tentes. Bon, bien sûr, ça ne résout pas. Et puis, de quoi s'alimenter, de l'eau, tout a été bien préparé. Et aussi bien le port de Tartous. Mmh. Beaucoup du monde aussi, on ne sait pas combien, mais bon, il y a énormément de monde. Mais alors, vraiment, ce qui s'est passé après, il y a un ami, tu dois le connaître, Bernard, c'est Bassam.
Oui.
On a pris son frère à 100 mètres de la maison. Ils lui ont parlé, on ne sait pas ce qu'il s'est dit. Ils l'ont plombé, ils l'ont traîné, donc ils l'ont tué.
Ils l'ont traîné
jusqu'à la porte de sa maison. Ils ont tapé à la porte, ils ont dit à sa femme, reprends ton mari.
Voilà.
C'est fou.
Non, mais voilà, un cas concret. Bassam Tab, on le connaît, on a parlé avec lui, Bassam Tab. Donc, je ne sais pas si tu l'as vu, Tandine, mais nous, on l'a connu il y a longtemps.
Oui,
il est venu plusieurs fois nous voir à Marseille, raconter ce qu'il faisait. Et c'était, disons, un monsieur qui passait beaucoup de son temps à défendre la Syrie et sa liberté d'expression et son multiculturalisme. Donc là, on l'a reproché à son frère ce qu'il avait dit lui, c'est-à-dire que le fait que la Syrie était un État laïque.
C'est ça.
Ça, il ne fallait pas le dire. Il ne faut plus le dire puisqu'il n'est plus, aujourd'hui, il n'est plus un État laïque. On ne sait pas, d'ailleurs, dans quelle direction il va, puisque ça nous amène à parler de la situation concrète. La situation concrète, je la fais démarrer en Turquie, à Istanbul. Vous avez tous compris que M. Erdogan a tenté un coup d'État, puisqu'il a en fait mis en prison, il l'a enfermé, il y aura un prison après, le maire de la plus grande ville de Turquie, Istanbul, c'est 19 millions d'habitants.
Ce maire, il est d'origine alaouite.
En plus, voilà. Alors c'est monsieur Ekrem İmamoğlu, vous avez tous vu son nom. Ouais. Donc monsieur Ekrem est le principal élu. La mairie d'Ankara est aussi aux mains de ce parti qui est un parti, disons, de gauche, héritier du kémalisme.
Ouais.
Donc qui a son sens dans l'histoire de la Turquie contemporaine et l'histoire de la Turquie du XXe siècle. Donc ce monsieur allait être le candidat contre Erdogan le candidat de l'AKP aux prochaines élections présidentielles. C'est en 2018, mais M. Erdogan est tellement inquiet de la popularité de ce monsieur qu'il est obligé, il se dit, il faut que je détruise tout l'édifice tout de suite, donc je commence par enlever le leader, et puis ensuite, la suite va venir, parce qu'il y a déjà 200 ou 300 membres du parti de M. İmamoğlu qui sont en prison. Et le reste va suivre. Donc M. Erdogan, tel qu'en lui-même, c'est-à-dire dictateur à la tête d'un parti islamiste, il faut le dire aussi très très clairement, est en train de faire le ménage. Bon. Alors bien entendu, on ne peut que souhaiter qu'il n'y arrive pas, mais il fait le ménage, et il fait le ménage d'autant plus facilement qu'il a enfin, il croyait avoir enfin les coups des Franches en Syrie. C'est-à-dire, quand il était à la frontière syrienne, bon, il passait un peu la frontière pour y mettre ses hommes à lui, on en a parlé déjà à Idlib et à Alep à l'occasion, mais il ne maîtrisait pas le gouvernement de Damas. Le fait qu'aujourd'hui il y ait un gouvernement de Damas qui est dirigé par les hommes qu'il a lui-même formés, entretenus, financés, il se considère comme le maître de la Syrie, avec plus aucune opposition sur le sol syrien, à part un petit peu les minorités...
C'est qu'on oublie, Bernard, qu'il est content, Erdogan, parce qu'il y a un État islamique.
En plus, tout à fait.
Il a placé un État islamique en Syrie.
Il l'a fabriqué. Tout ce qu'il a pu faire à Bachar el-Assad et au peuple syrien a réussi. On peut dire ça. Ceci a réussi, puisqu'au fond, son adversaire politique, qui était le pouvoir syrien, est tombé. Et qu'il a maintenant quelqu'un à sa solde, qui est, à la limite, j'allais dire, Jolani, c'est un employé d'Erdogan. C'est pas plus que ça. C'est pas une tête politique. La tête politique, elle est à Istanbul.
C'était Ben Laden, maintenant c'est Erdogan.
Voilà, c'est tout. Bon. Alors, la chose devient intéressante, donc, parce que là, on a Erdogan dans toute sa splendeur, je mets le mot entre guillemets, etc., qui pense qu'il est arrivé presque au sommet de sa puissance et qui veut continuer. Seulement, et c'est là que les choses commencent à se compliquer pour lui, il a, c'est clair, maintenant un adversaire sur place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a à l'autre extrémité de la Syrie, lui, il contrôle par le nord, l'extrémité sud, elle est contrôlée par Israël. Et donc là, on a un face-à-face qui est en train de se mettre en place entre les deux qui ont la même ambition, c'est-à-dire gouverner cette région-là du monde. On sait les ambitions du grand Israël, on connaît tout ça. Bon. Et en fait, maintenant, ils sont face-à-face. Qui va gagner des deux ? Alors j'allais dire, comme l'avait dit Truman à propos des bolcheviks et de l'armée hitlérienne, il avait dit que les deux, ils restent dans la bataille. Ça, j'en sais rien. Mais en fait, ça pourrait être ça, parce que là, ça va être très, très costaud. Ça va être très, très costaud. L'affrontement, il est prêt, on le sent, à différentes prises de position des uns et des autres. Hein, parce que Joulani à Al-Shaara essaye bien de ne pas se fâcher tout de suite avec les sionistes, mais on sent bien que les autres se méfient de lui parce qu'ils savent que c'est la Turquie qui est derrière. Et là, on a... Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens qui sont à la Maison-Blanche. Ça va devenir un peu compliqué pour eux. Parce qu'ils ont, d'une part, une grosse armée. L'armée turque, on dit que numériquement, c'est vrai, c'est la deuxième armée de l'OTAN. Ce n'est pas la plus pointue au point de vue opérationnel. Mais en volume, en nombre d'hommes, et en équipement, elle est bien équipée. Bon, ils sont dans l'OTAN, c'est bien. Israël n'est pas dans l'OTAN. Mais je veux dire, c'est encore pire, puisqu'en fait, on leur donne tous les armements qu'on veut, et qu'ils ne payent pas.
C'est bon. Un État de voilà. D'Amérique.
Oui, oui. C'est presque un 51e État des États-Unis. Donc, en fait, comment faire, j'ai employé un mot très, très gentil, comment on va faire les arbitrages à la Maison-Blanche? Ah, lequel des deux on va favoriser? Et est-ce qu'on ne va pas essayer de les calmer un peu tous les deux pour éviter? Parce que si finalement ils s'affrontent, parce que ça pourrait arriver à ce niveau-là, s'ils s'affrontent, effectivement, Washington perd deux amis, enfin deux vassaux, deux proches, etc. Donc, alors, je ris parce qu'au fait, dans les avancées de Trump, il avance sur des terrains qui sont de plus en plus minés. C'est-à-dire que quand on a dans sa manche ou proche de soi à la fois Erdogan et le régime islamiste et le régime sioniste, on a affaire à deux régimes dangereux, très très vindicatifs, très très mortifères. Et comment les arrêter, hein? Alors, il se trouve un peu dans la position de l'arbitre de combat de boxe. Et comment je vais faire? Et lequel des deux va tomber? Il ne faudrait pas qu'il tombe tout. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, je laisse l'histoire ouverte. L'histoire est en train de se faire, mais elle prend des proportions qu'on n'avait pas imaginées.
On n'avait pas imaginé.
Et même début décembre, quand les islamistes ont envahi Damas, je sentais bien venir qu'il y avait une espèce d'endroit où là allait s'accumuler des forces contraires. Mais là, ça y est, elles sont bien installées et elles s'affichent désormais en tant que force contraire. Il reste un morceau d'incertitude, c'est la partie la plus nord-est du territoire où il y a encore des milices, donc pro-kurdes, mais pas que pro-kurdes, qui voudraient bien ne pas être sous la tutelle ni des sionistes, ni des islamistes d'Erdogan. Bon. Ouais. Bon. Et puis il y a quand même quelque part qui traînent des soldats américains.
Mais enfin, ce qui est bizarre, c'est que cette tu viens de parler, c'est Al-Qassad, c'est ça. Al-Qassad, oui. Mais ces gens-là, ils ont signé un truc avec Joulani.
Ah non, c'est les autres, c'était les SDF.
Alors,
il y a une partie. Alors, il y a une des milices pro-kurdes, ce qu'on appelle le SDF, Syrian Democratic Forces, qui a signé un accord, effectivement, avec les islamistes de Damas. Bon, ouais. Donc là, c'est clair.
Ils avaient signé avec Erdogan.
Mais pareil, bien sûr. Non, mais ça, alors, c'est pas la première fois qu'on se lamente sur... je dis pas c'est l'incohérence des Kurdes. Ce pauvre peuple kurde, il est partagé entre plusieurs pays, entre des positions politiques différentes, etc. Bon, et à un certain moment, on se dit, ben, tant qu'il n'y aura pas une unité du peuple turc sur une revendication d'un Kurdistan uni, ils n'avanceront pas, ils seront toujours entre les mains de l'un ou de l'autre pour faire avancer les intérêts de l'un ou de l'autre. C'est dommage, moi je pleure sur les Kurdes, mais je suis presque désespéré devant cette situation qui n'en finit pas de se dégrader, en fait. On en est là. Voilà donc pour ce qui se passe. Donc là, on peut considérer que l'espace syrien, je ne dis pas la Syrie, l'espace syrien est une espèce d'entonnoir de gros endroits où s'accumule toute une série d'éléments contradictoires, tous plus violents les uns que les autres hein, ouais. Qui sont prêts à tout par tous les moyens et dont on ne sait pas exactement ce qui va sortir. Et donc, moi, j'attends avec curiosité, d'une part, le positionnement de Washington, et puis j'espère aussi, parce que ça viendra nécessairement, bien que ce ne soit pas la première priorité, qu'à un moment donné, dans les dialogues entre les États-Unis et la Russie, on va parler aussi de ce sujet-là.
Oui.
C'est pas la première priorité aujourd'hui. La première priorité est à l'Ukraine, on a compris. Hein. Mais on va nécessairement parler de ce projet-là, parce qu'au fond, la Russie sait de quoi elle retourne sur le sol syrien. Elle est intervenue et d'une façon qui a été décisive pour le déroulement des événements. Bon. Et donc, je pense qu'il y aura des échanges, s'ils ont peut-être même déjà commencé sur
Mais
cette question.
Certaines déclarations d'un journaliste saoudien, il a dit que, bon, c'est vrai que le sujet, c'était l'Ukraine. Mais d'autres se sont
forcément
d'autres sujets sont greffés, hélas, dans le Moyen-Orient.
Voilà, et le sujet est d'autant plus chaud qu'on voit arriver cet affrontement qui pourrait être militairement redoutable. Alors là encore, on nous parle de bombes atomiques. J'y crois pas tellement, de bombes atomiques israéliennes. Non. Mais ça serait un affrontement extrêmement violent. Ça serait à qui perd. Il y aurait qu'un vainqueur sur deux. Bon, donc ça va venir. La bataille, elle est prête. La bataille, elle est prête, on voit les enjeux. Et puis, il reste les deux d'au-dessus. Et je ne vais pas parler de la Chine, parce qu'elle doit avoir ses idées aussi là-dessus. Mais la Russie et les États-Unis vont nécessairement devoir parler de ce sujet-là. Parce qu'autrement, c'est toute la région qui est en feu. Et encore, et
des centaines de... que la sagesse l'emporte.
Voilà, ouais. Et des centaines de milliers de morts en plus. Ouais. Et puis, aussi bien, si Erdogan gagne, enfin, il a toujours été gentil avec Israël, tant qu'Israël ne s'en prenait pas à lui. Encore que, je rappelle que quand Erdogan a monté la fameuse opération nautique pour amener du matériel aux Palestiniens, vous vous souvenez, l'histoire du bateau qui arrivait, etc.
Oui.
Bon, les Israéliens ne lui ont fait aucun cadeau. Souvenons-nous de ça.
Jusqu'à présent, même maintenant,
mais
en Syrie, ils lui font aucun cadeau.
Aucun cadeau. Donc, effectivement, tout est prêt pour qu'il y ait des étincelles et que les étincelles mettent le feu à ce qui reste de cette pauvre Syrie. Bon. On y reviendra nécessairement, mais là...
Bernard,
oui.
Et que dit le Conseil de sécurité par rapport à tout ça?
Alors,
oui.
Alors, le Conseil de sécurité n'est pas très bavard. Alors, je vais resituer quand même M. Guterres, parce qu'il faut le faire. M. Guterres, secrétaire général, est un ancien Premier ministre portugais, social-démocrate, comme l'ont été Mario Soares et quelques autres. Et il faut savoir que la social-démocratie portugaise, mais on en reparlera plus longuement dans un mois quand on parlera de l'anniversaire de la Révolution du 25 avril 1974, ce sera la bonne occasion, les sociaux-démocrates portugais, au premier chef M. Mario Soares, qui avait été gardé au chaud en dehors du Portugal, est venu pour défendre les intérêts des États-Unis au Portugal pour étouffer la Révolution des œillets. C'est bien ça qui a été son rôle. Et il l'a fait avec l'aide, je le rappelle, parce que ça touche la France, qui a aidé M. Soares à prendre le pouvoir au Portugal, calmement, hein, parce que tout a été fait pour quoi ? C'est M. Giscard d'Estaing et M. Helmut Schmidt. Hein. C'est eux qui ont concocté l'affaire avec la bénédiction de l'ambassadeur des États-Unis à Lisbonne, qui était un ami personnel de George Bush, je le précise, un ami aussi de M. Sarkozy, je le précise aussi, tout ça c'est la même famille. Bon. Donc ce qui s'est passé, c'est que la social-démocratie portugaise a évité ce qui pour elle était, enfin a fait éviter à l'Occident ce qui pour l'Occident était le pire, c'est-à-dire que le mouvement des capitaines d'avril et la position d'un certain nombre de généraux qui ont gouverné le Portugal de 74 en gros à 76 était de sortir de l'OTAN. N'oublions jamais ça. C'était central. Et donc, pour Washington, c'était inacceptable. Ils auraient fait... Alors, heureusement, ça s'est passé assez calmement. On a fait arriver un socialiste, ça faisait gauche, etc. Le peuple portugais a laissé faire, disons. Mais c'était bien ça. Et il faut savoir que tout pays qui essaierait de sortir de l'OTAN serait soumis à de telles pressions. Là, il n'y a pas eu de, ils n'ont pas tiré dans le tas, il n'y a pas eu de bonne sang, etc. Et ils ont quand même gardé de cette période-là une des constitutions, la constitution la plus progressiste de toute l'Europe. C'est ça le mouvement populaire qui a fait ça. On en reparlera au mois d'avril pour l'anniversaire. C'est important de bien resituer. Sortir de l'OTAN, c'est un péché mortel. C'est un péché mortel. Alors, on dit aujourd'hui que Trump se dit que l'OTAN, finalement, c'est une charge, ça me passerait peut-être. En fait, non, ce qu'il veut, c'est que l'OTAN paye, que les autres payent, c'est tout. Il parle qu'argent. Bon. Voilà, donc pour la Turquie, on s'est dit, et puis on y reviendra parce que manifestement, le sujet est explosif, extrêmement chaud. Et j'en reparle encore d'une façon indirecte, puisque en fait, vous savez que donc il s'est tenu hier donc une réunion à Riyad, organisée donc sous l'égide avec la bénédiction de l'Arabie Saoudite, entre une délégation russe et une délégation des États-Unis.
Il n'y a pas d'Europe.
Ah non, l'Europe, elle compte pas. L'Europe ne compte pas. Et alors, on sait qu'il y avait une délégation ukrainienne qui était dans les couloirs. Hein. On les invite, par gentil. Puis après, une fois que la réunion est finie, les représentants des États-Unis, très gentiment, viennent leur raconter ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'ils leur racontent tout? On n'en sait rien. Hein. Mais de toute façon, ils ne sont pas invités. Ils ne pèsent rien, vu depuis Washington. Bon. Alors, quel était l'ordre du jour officiel, puis ça a été dit, l'ordre du jour de cette réunion donc de Riyad hier? C'était la mer Noire. Pourquoi la mer Noire? Parce que la mer Noire, vous regardez, ben, y a, au sud, il y a la Turquie, de l'autre côté, il y a la Russie, il y a l'Ukraine, et puis il y a quelques pays, il y a deux pays de l'OTAN, la Roumanie et la Bulgarie, voilà. Et la Géorgie, qui est quand même est en train de prendre ses distances par rapport à l'OTAN, où elle a failli rentrer, mais je pense que c'est fini, ça ne se fera plus. Et donc, voilà la situation. Alors, pourquoi parler tranquillement de la mer Noire? Ben pour qu'il n'y ait plus la guerre dans la mer Noire. C'est ça l'idée. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la guerre dans la mer Noire? Ben la guerre dans la mer Noire, ça veut dire que sous couvert, j'insiste bien là-dessus, sous couvert d'exportation de céréales, du blé principalement et d'autres céréales, il y a des trafics d'armes, des trafics de missiles, etc. C'est-à-dire qu'un bateau qui arrive à Odessa, qui est chargé de blé ukrainien qui va aller vendre à je ne sais quel pays d'Afrique et tout, repart à vide. Mais ça, tant mieux. Il repart avec du blé.
Oui.
Quand il revient dans l'autre sens, il est vide. Et s'il n'est pas vide, qui va inspecter ce qu'il y a dedans? Normalement, c'est les Turcs qui devraient le faire.
Ouais.
Mais si,
si
on cache bien quelque chose, il est arrivé. Alors maintenant, les Russes en sont sûrement convaincus. Il est arrivé beaucoup de matériel pour la guerre dans le cadre du trafic de céréales. Ce qui explique. Je vais vous dire pourquoi je formule cette hypothèse. Je ne prends pas de risque, puisque un des deux délégués de la Russie à cette réunion était le chef du contre-espionnage russe. Ce n'est pas un diplomate. C'est le monsieur à qui l'émissaire américain qui était là ne pouvait pas raconter des histoires. S'il disait non, il ne se passe rien, l'autre allait lui dire si, tel jour il y avait ça sur le bateau, tel jour il y avait tel missile, tel jour il y avait ci, tel jour il y avait tel jour il y avait des explosifs, etc. Donc, effectivement, le dialogue a dû être. Pas rude, mais à chaque mensonge ou affirmation large de la délégation américaine, le contre-espionnage russe disait « c'est pas vrai ». Point. C'est tout. Ça, c'est pas une négociation. C'est un échange d'informations. C'est-à-dire que chacun des deux partenaires se jauge, évalue l'autre, ses capacités, ses mensonges, et lui dit, quand il le prend la main ça, « là, tu m'as menti. Hein, bon, on arrête, c'est tout. Hein, tu as menti, tu le sais. Bon, on n'en parle plus. Hein, » c'est pas une négociation, on remet tout en cause, on va voir si on trouve... Il n'y a pas de compromis. Si effectivement, il y avait sur les bateaux qui revenaient à vide pour le port d'Odessa, s'il y avait des missiles dedans, eh ben les Russes le savent, ils ont des photos, ils ont tout ce qu'il faut, ils savent le jour, le nom du bateau, etc. Et donc les autres n'ont qu'à se taire, c'est tout. Don't act. Alors c'est pour ça d'ailleurs que la délégation russe a fait le minimum de commentaires sur cette réunion. On travaille, on s'explique, et puis carte sur la table, carte du contre-espionnage sur la table, c'est ça que ça veut dire. Et de l'autre côté, ils étaient un peu embêtés, parce que c'est pas le tour qu'ils auraient voulu donner, et ça a amené Trump à faire un petit communiqué, lui-même. Il a commenté en disant qu'on avait parlé de beaucoup de choses. Alors ça, il est en train de ménager ses arrières parce qu'ils disent « on a parlé des terres rares, on a parlé de ces trucs ». Voilà. Mais en fait, ça, c'est lui qui le dit après. Il le dit parce qu'il se rend compte qu'il y a un certain nombre de messages qu'il a mis en circulation qui ne tiennent pas trop la route. Hein. Donc il est obligé de dire « oui, les terres rares, ça y est, on avance, Zelensky qui va signer, etc. Vous allez voir ce que ça va. » Et puis il remet sur le tapis, je m'arrête une seconde là-dessus, la question des centrales nucléaires. Alors la question des centrales nucléaires, elle est double. C'est-à-dire que depuis l'arrivée donc de Porochenko, depuis la révolution, le coup d'État de Maïdan, il y a une entreprise américaine qui est la plus grosse entreprise dans le nucléaire pour le nucléaire civil, qui s'appelle Westinghouse, qui d'ailleurs est en mauvaise santé, puisqu'entre-temps, d'ailleurs, elle a fait faillite, qu'elle a été rachetée par les Japonais Toshiba, bon, et qui, du point de vue de ses performances industrielles, est très très faible. Je veux dire que Westinghouse, à part les centrales qu'il arrive encore à construire aux États-Unis, est dans l'incapacité d'en vendre nulle part au monde. Aujourd'hui, c'est très clair, ben il faut le dire aussi, c'est pas pour faire l'apologie du nucléaire russe, il n'y a que la Russie qui vend des centrales nucléaires dans le monde entier. Bon. Ce qui veut dire qu'elle ne vend pas à des enfants de cœur, elle vend à des gens qui regardent si c'est sérieux, s'il y a les moyens, si la technique est bonne, etc., qui prennent des précautions. C'est une industrie dangereuse quand même, l'industrie civile du nucléaire. Bon. Il faut savoir aussi que la Russie, donc, qui est la maîtresse du marché mondial des centrales civiles nucléaires, est très très prudente, puisque dans la mesure où elle installe une usine, une centrale nucléaire, ce serait par exemple, on en parle, une future au Niger qui pourrait avoir lieu, la Russie garde le contrôle des matières fissiles, c'est-à-dire elle donne le carburant, elle recycle après les carburants utilisés. Ouais, bon. Et donc, elle évite ce qu'elle a raison de faire. Elle évite la prolifération nucléaire qui pourrait être liée au fait que chacun fait sa centrale et puis sort un peu de plutonium et se fait à l'occasion une bombe sans l'avoir dit à personne. Bon, ça, la Russie prend toutes les précautions et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a en Iran des centrales nucléaires russes, de fabrication russe, et que le carburant est amené par la Russie et les fissiles utiles sont retraités par la Russie. Donc,
la Russie, dernièrement, elle a rassuré l'Amérique que l'Iran ne possède pas la bombe.
Mais non, voilà. Tout à l'heure. Avec quoi il la ferait, puisque en fait, c'est nous qui avons la gestion des matières fissiles.
Exact.
Bon, ouais. Et que l'Iran a signé en pleine connaissance de cause. La Russie n'a pas forcé l'Iran à dire c'est ça ou rien. Elle a dit voilà les règles du jeu. On vous fait une centrale, vous avez de l'électricité, ça coûte tant la centrale, les combustibles nucléaires, c'est notre problème. C'est chez nous que ça se passe. C'est tout, point. Bon, et l'Iran a trouvé ça très très bien, puisque ça correspond exactement à sa position politique. Bon.
Et en Ukraine, la plus grande centrale...
Et alors, problème, problème, c'est que la plus grosse des centrales, et tout le monde connaît son nom maintenant, la plus grosse des centrales d'Europe, hein, avec donc 6 réacteurs les uns à côté des autres. Nous, quand on en a 2, c'est au bout du monde. Ouais. Mais eux, ils ont mis, et c'est le cas unique dans l'histoire de l'industrie civile nucléaire, 6 réacteurs les uns à côté des autres, la fameuse centrale donc, de la région de Zaporoye, qu'on appelle Zaporoye, qui est en fait dans une ville qui s'appelle Energodar, c'est la ville de l'énergie.
Elle ne doit pas être loin de Donbass.
Non, bien sûr. La province de Zaporoye. Alors, revenons sur le Donbass, effectivement. Le Donbass, il y a 2 provinces, donc Lugansk et Donetsk, qui sont déjà dans la Fédération de Russie. Et à la suite des référendums qui ont eu lieu à la fin de l'année 2022, donc après le début de l'opération militaire spéciale, il y a 2 régions supplémentaires qui ont voté pour l'intégration à la Russie, qui sont la région de Zaporoye et la région de Kherson, qui sont donc un peu plus à l'ouest. Alors, elles ont voté, alors pour une partie, on peut dire qu'aujourd'hui, vu ce vote et vu le fait que le Parlement russe les a acceptées, ces 2 régions, dans la Fédération de Russie, c'est l'Ukraine qui est l'envahisseur. L'Ukraine occupe une partie de ces 2 régions russes, validées par le référendum populaire et par le Parlement russe. Bon, ce qui n'est pas rien. Bon. Et donc, en fait, la centrale de Zaporoye est donc sur la partie russe, la partie contrôlée par l'armée russe aujourd'hui de la province de Zaporoye, qui est elle-même une partie russe sur laquelle l'Ukraine a installé des soldats. Bon. Vous savez que depuis, je crois, mars 22, donc dans les quelques semaines ayant suivi le début de l'opération militaire spéciale, la Russie a pris possession de la fameuse centrale de Zaporoye. Et elle a mis à sa tête un monsieur qui était directeur d'une autre centrale nucléaire dans un autre endroit de Russie. Alors pourquoi elle l'a fait ? Parce qu'effectivement, la centrale nucléaire de Zaporoye, comme toutes les centrales actuelles en service en Ukraine, sont des centrales sur un modèle soviétique, qui a été clairement établi, hein, et qui fonctionne avec du carburant, enfin des matières fissiles fabriquées en Russie, et qui retraite, dont les matières fissiles sont retraitées, recyclées en Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis ce moment-là ? Parce que maintenant, on se met à reparler de l'histoire de Zaporoye. Il faut savoir que depuis que la Russie a pris possession de cette centrale, Cette centrale a été l'objet de toute une série de bombardements, d'attaques par les Ukrainiens, avec le risque, un vrai risque de catastrophe nucléaire, bon, qui a été évité. Il faut savoir que l'Agence internationale de l'énergie atomique, chargée de surveiller tout ça, a été d'une hypocrisie totale, puisque chaque fois que les Ukrainiens tiraient sur Zaporoïe, M. Raphaël Grossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, allait sur place, il dit « je ne sais pas qui c'est qui a fait ça hein ». Comme si, effectivement, les Russes allaient se tirer dessus alors qu'ils étaient dans la centrale. Bon. Donc là, on a une vraie complicité de cette organisation internationale. Ce n'est pas le seul cas. Et donc, organisation internationale qui dépend de l'ONU. C'est pour ça que j'en reviens aux ambiguïtés ou à la faiblesse de l'ONU. Bon. Alors, le sujet revient. Et donc, pour revenir à la réunion de Riyad, M. Trump s'est cru obligé de parler des centrales nucléaires et de Zaporoïe en disant « Moi, je vais la voir, Zaporoïe. » Cause toujours, monsieur... Monsieur Trump veut s'approprier dans une province qui a voté pour être russe, qui fait partie de la Fédération de Russie, et il veut s'approprier 6 réacteurs nucléaires pour dire que, en partie, Westinghouse s'y intéresse. Ben, Westinghouse s'y intéresse, mais je vous dis, c'est pas méchant, je n'ai pas d'action ni chez Westinghouse ni chez Energoatom russe, c'est-à-dire, mais ils ne sont pas à la taille. Westinghouse est une société qui n'est pas très très bonne, et lui qui a fait faillite, qui a été rachetée par des capitaux japonais. Donc le nucléaire civil aux États-Unis, il n'est pas très très brillant, mais ce n'est pas le seul secteur industriel où l'industrie américaine n'est plus ce qu'elle a été en 1945 ou en 1950. C'est tout. Il faut qu'on ait... Alors, Trump doit le savoir, mais il bluffe. Et en fait, ça l'intéresse. Ouais. Il bluffe, hein, comme toujours. Hein, il fait des deals, il dit j'annonce des choses extraordinaires, et puis il n'y arrive pas.
C'est un joueur.
Bon, alors, j'ai évoqué l'Iran, donc j'en reparle à propos de Trump, hein, puisque, au fond, la position de Trump consiste à dire il faut absolument que l'Iran signe un engagement à ne pas avoir l'arme nucléaire. Alors, je rappelle quand même que c'est un certain Donald G. Trump qui, en 2018, je crois, a dit qu'il ne respectait plus le contrat signé avec l'Iran par son prédécesseur. Contrat dans lequel l'Iran confirmait qu'il ne voulait pas l'arme nucléaire et laissait les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique se faire sur son territoire. C'est M. Trump qui a suspendu cet accord. Et tout d'un coup, il va reprocher à l'Iran de l'avoir suspendu. Ben non, M. Trump... Alors, on a aussi... Alors, je ne sais pas à quel niveau... Alors, est-ce que ce monsieur n'a pas de mémoire? Je ne crois pas que c'est le cas. Ce monsieur recherche les effets de tribune. Il faut que je parle parce que je suis le président des États-Unis. Il faut que j'ai toujours un mot à dire. Et au fond, la politique, ça consiste à faire 4 tweets par jour. Pour le reste, on verra bien. Et si je me contredis la semaine prochaine, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Je ne saurais même pas où je dirai « Ah oui, j'ai dit ça parce que j'étais en colère ». Il l'a fait déjà. Il l'a fait une fois. « Oui, j'ai dit ça, mais ça m'est sorti comme ça ». Alors. En même temps, ça fait sourire. On sourit, nous, dans le studio. Mais quand on se dit qu'un monsieur qui a quand même quelque chose comme 3000 bombes thermonucléaires, des moyens de les transporter, des sous-marins, des bombardiers stratégiques, se met à dire « je dis ça parce que j'étais en colère », on se dit « dis, Donald, tu es calme à certains moments ? Est-ce que tu sais être calme à certains moments ? Est-ce que tu sais penser à l'avenir de l'humanité ?» Au moins à l'avenir des citoyens américains, parce que s'il avait le feu nucléaire, il y en aurait pour tout le monde, tu le sais. Donc, bizarre. Donc, on a affaire à un personnage difficile à gérer. Mais je pense que, vu ce que je vous dis de la réunion de Riyad, les États-Unis, la Russie a commencé à comprendre, et donc elle laisse le personnage s'époumonner, faire ses tweets, et puis concrètement, dans la réunion de Riyad, il... Vous avez transporté, vous, sur les bateaux ukrainiens, des missiles pour la guerre. On le sait. Bon, et maintenant, on se tait. Hein, le débat est clos, l'incident est clos. Alors, je finis, je reviens plutôt sur mes fameuses céréales, parce qu'il faut savoir que la Russie exporte aussi elle-même, pas par Odessa, mais par le port de Simferopol ou par Novorossiysk, un peu plus à l'est. Elle exporte beaucoup de céréales, au point que la Russie est aujourd'hui le premier exportateur mondial de céréales. Hein. Donc elle n'a pas fait de comédie. Le problème, c'est que, et c'est sans doute ce qui a été débattu sérieusement hier à Riyad, c'est qu'à un moment donné, voyant qu'il y avait des risques d'attaques nucléaires aériennes par l'aviation ukrainienne sur les bateaux transportant le blé russe, voyant qu'il y avait des sous-marins qui traînaient là, qu'il y avait des avions britanniques qui surveillaient, qui survolaient la zone, etc., la Russie a dit, moi, j'ai plus confiance, et donc j'arrête de travailler avec les Ukrainiens là-dessus. Au début, c'était clair, on travaillait ensemble, on vérifiait, chacun faisait ses exportations, chacun était tranquille. Bon, ils ont dit, on arrête, et donc, il n'y a plus d'accord. L'accord donc, sur les céréales russes et ukrainiennes à l'exportation a été suspendu. Et ce que la Russie souhaite, c'est qu'ils reprennent, mais qu'ils reprennent dans des conditions de stabilité, c'est-à-dire que quand il y a effectivement un bateau que de céréales qui est chargé à Odessa ou à Novorossiysk, il va jusqu'au Dardanelles, jusqu'à Istanbul, il passe et on le laisse tranquille, la navigation commerciale en temps de paix. C'est ça, la paix sur la mer Noire. On ne tire pas sur un bateau de céréales. Parce qu'en plus, je le souligne, c'est pas simplement une question d'argent. Bien sûr, ce blé, il est vendu, mais pas tout. La Russie donne beaucoup de son blé à l'exportation pour les pays les moins riches d'Afrique, il faut le savoir aussi. Mais c'est une question de liberté du commerce en temps de paix. Bon, rétablir la paix sur la mer Noire, ça a du sens. Ça a du sens que ce soit pour les Éthiopiens ou les Soudanais qui attendent le blé parce qu'ils ont faim, ou les Égyptiens parce qu'ils ont faim. C'est ça, ça ne va pas plus loin que ça. Mais c'est très très important parce qu'il y a des pays qui ont faim, il y a des pays qui n'ont pas de blé. On récolte très très peu de blé en Égypte, peu de blé au Soudan, il y a des besoins considérables. Et dans toute l'Afrique, il y en a. Et donc c'est ça. Alors que l'Ukraine en vende aussi, c'est très bien, mais que ça se fasse sur des bases claires et qu'on ne triche pas et qu'on ne mette pas des missiles dans les cargaisons de retour. C'est ça qui était à l'ordre du jour hier. Alors ça, on ne vous l'expliquera pas, et pourtant, c'est le fond du problème. C'est-à-dire que le commerce des céréales, qui devient important, puisque quand vous avez le premier exportateur mondial de céréales, plus un des trois ou quatre premiers, ce qui est encore l'Ukraine aujourd'hui, vous avez tout l'équilibre du marché mondial des céréales, donc l'équilibre de la faim dans le monde qui se joue. Bon, c'est très très sérieux, c'est très très sérieux. Et donc, il ne faut pas laisser ça à des guignols qui font de l'effet de manche à des tribunes. C'est très, très sérieux. Bon. Donc, je pense que ça va aller dans le bon sens, mais sur chaque dossier qui va venir dans ces réunions à huis clos entre la Russie et les États-Unis, il y aura des débats de ce type-là. Et moi, je ne peux que souhaiter que les débats de ce type-là aient lieu. Il s'agit effectivement, quand il s'agit de la faim dans le monde, ou de la santé dans le monde, ou de tas d'autres sujets qui touchent toute l'humanité, et en particulier les populations les plus faibles dans l'humanité, il faut qu'on soit sérieux, hein, qu'on ne raconte pas des histoires pour faire des effets de manche à la télévision. Bien. Ouf. Alors, il s'est passé aussi d'autres choses. Alors, ça vous a peut-être... Je ne sais pas si ça a été beaucoup médiatisé. Un de ces matins, il y a peut-être 8-10 jours, un ancien chef d'État d'une république asiatique est sorti de son avion. Il venait de voyage, je ne me souviens plus d'où. Il s'appelait M. Duterte, Rodrigo Duterte. Il a été président pendant 7 ans, je crois, des Philippines. Il arrive donc sur l'aéroport de Manille. Il sort de son avion et il est cueilli à son arrivée par la police qui le remet dans un autre avion. Et le soir même, il se retrouve à la CPI. Accusé de crimes contre l'humanité. Ouais. Alors là, c'est encore mieux que Gbagbo. Il n'a même pas eu le temps de rentrer chez lui. Le jour même, il s'est retrouvé à La Haye. Alors maintenant, à La Haye, il peut y rester très très longtemps. Vous savez que c'est long, les procès à La Haye, à la Cour pénale internationale. Alors, personnage qui a décidé ça, c'est un héritier de la famille Marcos, qui sont les chefs d'État philippins mis en place par les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. On connaît la famille, on connaît les façons de faire. Ouais. Et donc, très, très grosse surprise. Alors, ça n'a pas du tout, ça n'a pas beaucoup été médiatisé. Non, on dit, mais ça ne se dit pas. Mais non, parce que ce n'est pas très joli à présenter. Vous prenez un monsieur. Alors, Duterte, bon, c'est un monsieur Ducru, ce n'est pas une fabrication des États-Unis, qui s'est installé au pouvoir en faisant campagne contre le trafic de drogue. Et il a été, j'allais dire, un peu raide là-dessus. Pas de quartier. Bon. Mais c'était ça son programme, il s'y est employé. Et donc il a tenu des discours assez durs contre les trafics en drogue, et puis il y en a un certain nombre qui sont tombés dans des combats avec la police philippine et tout. Bon, c'était pas un enfant de cœur, je dirais, pour parler la langue de tout le monde. Mais il a fait ce qu'il avait annoncé. Le pays est pourri par la drogue, et c'est vrai, on le sait depuis longtemps, hein, et donc moi je veux y mettre un terme. Il y a quand même mis un terme. Et ça, les gens qui trafiquent, qui profitent du trafic de drogue, peut-être lui en veulent. Hein, parce qu'il a dû toucher au business. Hein. Et je rappelle, puisqu'il faut quand même parler du commerce mondial de la drogue, que le problème du commerce mondial de la drogue, c'est qu'effectivement, il y a des fabricants et des trafiquants qui amènent la drogue des lieux de production jusqu'au lieu de consommation, mais qu'il y a des consommateurs qui sont concentrés à un endroit bien particulier de la planète qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Donc quand vous touchez à l'exportation de cocaïne ou d'héroïne depuis un pays d'Asie quelconque, que ce soit les Philippines ou la Birmanie, vous touchez directement à l'intérêt des mafias états-uniennes qui maîtrisent ce trafic et qui abîment la population des États-Unis. C'est bien ça. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a des consommateurs. Sinon, ça n'aurait pas de sens.
C'est vrai.
Bon. Alors, voilà, alors je pense à M. Duterte, mais vous savez, on sait d'expérience, puisqu'on a suivi très très précisément le procès de Laurent Gbagbo à la CPI, que M. Duterte risque d'y rester un certain temps. On va voir. Et je n'ai pas vu effectivement de protestation sur cette opération rocambolesque, parce que c'est un vrai film d'espionnage. Bon. Et du coup, ça s'est pas su. Hein ? Non, Roselyne, tu disais que tu n'avais pas entendu parler.
Non, j'en ai pas entendu parler, mais moi, ce qui me choque beaucoup, c'est qu'on dit qu'il est soupçonné de crimes contre l'humanité pour sa guerre meurtrière contre la drogue.
Eh ben, voilà, mais oui, parce que je dis, ah oui, mais reconnu, il n'a pas fait de quartier.
Oui,
Quand il prenait des bornes...
Enfin, bon, si on l'avait aidé à faire la guerre contre
bien
la
entendu,
drogue...
Ouais, bien entendu. Parce que apparemment les consignes étaient claires. Quand ils arrivaient à coincer un groupe de trafiquants de cocaïne dans la nature, si les autres se mettaient à tirer, la police répondait. Et voilà, c'était comme ça que ça se termine. Ça, là-dessus, je suis clair sur la façon dont le personnage fonctionnait. Ceci étant, comment faire ? Que faire ? C'est bien joli de dire « c'est pas bien ». Bon. Voilà, ça c'est alors puisque j'en suis au personnage expéditif, allez, je fais un saut en Amérique latine parce qu'il y a un autre personnage expéditif qu'on appelle Monsieur Nayib Bukele. On en a déjà parlé quelques fois.
Ouais.
Monsieur Nayib Bukele, donc qui est le président semi-dictateur de la République du San Salvador, a installé sur son territoire un centre de confinement du terrorisme. C'est comme le mot est joli. Alors en fait, je vais vous expliquer. Il s'agit d'un deuxième Guantanamo qui n'est plus géré directement par les États-Unis. C'est beaucoup plus tranquille comme ça. On dit, ah ben, on a mis juste 6 millions de dollars sur la table, c'est rien du tout. Hein, et on a dit, la Maison-Blanche a dit à M. Bukele, on va t'envoyer des Vénézuéliens, des Haïtiens, tous les Latinos qu'on n'aime pas. Pas tous, des Nicaraguayens, tous les Latinos qu'on déteste, nous, aux États-Unis. Donc, les Nicaraguayens, les Haïtiens, les Vénézuéliens, les Cubains, évidemment, quand on veut attraper de ce côté-là. Donc, de ça, c'est M. Bukele qui va en hériter. Et paraît-il, les échos qu'on a sur son centre de confinement du terrorisme, c'est que c'est un endroit où la vie est très, très dure pour les prisonniers. Hein. C'est donc Guantanamo, mais c'est un sous-traitant de Guantanamo.
On va envoyer Joulani là-bas.
Voilà, pour... Tout à fait, tout à fait. Alors, je regarde où j'en étais de tout. Ah oui, alors ça fait des semaines.
Il n'y en a plus que pour 10 minutes. Voilà, ok. 9 minutes.
Ok. Non. Alors, ça fait plusieurs semaines que je vous dis, je vais vous parler des Kanaks. Parler des Kanaks parce qu'il y a donc un congrès, il y a même ça presque un mois maintenant, du FLNKS. Et le FLNKS a montré qu'il ne s'était pas endormi. Et qu'il avait très conscience que la période qui s'ouvrait était une période historique qu'il ne fallait pas lâcher. Et donc, le FLNKS mandate le bureau politique du FLNKS à composer sur proposition des groupes de décision et à décider de demander la supervision de l'organisation des États-Unis à partir de la phase de négociation jusqu'à l'accession de Kanaky à la pleine souveraineté, ainsi que pendant les négociations avec l'État français et autres États concernant l'établissement de conventions d'interdépendance. Bon. Ça veut dire quoi ? Non, ça veut dire quoi ? Alors, il faut rappel de l'histoire. La Nouvelle-Calédonie, la Kanaky, a été classée par la commission de décolonisation de l'ONU parmi les territoires à décoloniser, territoires qui ont été envahis par des gens de l'extérieur qui n'avaient rien à y faire. Bon. Ça, c'est clair, et ça n'a pas changé, et l'ONU n'a pas changé là-dessus. Et donc, en fait, ils ont raison de s'adresser à l'ONU en disant, nous vous rappelons, nous, Kanaks, que vous avez classé à juste titre dans la liste des pays à décoloniser, et que donc, vous devez nous aider dans les démarches de décolonisation. Ce n'est pas simplement dire, oui, on l'a écrit dans un rapport, et tous les ans, on le remet la même phrase dans les mêmes rapports là-dessus et tout. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, ils disent, on est dans le moment où on va accéder à la souveraineté. Écoutez le changement de discours. On est dans le moment où on va accéder à la souveraineté. Mais c'est l'ONU qui nous a mis sur cette liste, c'est l'ONU qui doit nous aider. Alors, je renvoie la balle à M. Guterres. Allez, un peu de fermeté, M. Guterres. C'est le moment, c'est le moment. Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, affirme que le sujet des prisonniers politiques sera incontournablement traité. Bon, alors, prisonniers politiques, vous savez qu'il y a des prisonniers politiques, donc dans les militants kanaks, en particulier des prisonniers qui sont dans des prisons sur le territoire de la République française en France, donc à une dizaine de milliers de kilomètres de chez eux, traités pas trop mal parce que ça se saurait, mais on les a interdits de faire de la politique, c'est bien ça, un prisonnier politique, on le met à des dizaines de kilomètres de chez lui et il peut rien faire. Construire une société plus inclusive, équitable et respectueuse de l'environnement et des cultures qui composent la Kanakie. Ouais. Donc il ne s'agit pas de jeter les Européens à la mer. Il s'agit de dire, on est en Kanakie, les Kanaks sont souverains et tous les gens qui veulent vivre ici peuvent continuer à vivre dans une société inclusive. Il ne s'agit pas de jeter tous les gens à la mer. Exige que l'ensemble des élus et militants traitent l'urgence totale qui touche les populations les plus vulnérables, parce qu'effectivement, on sait que la tension sociale fait qu'une partie des Kanaks, la population pauvre de Kanaki, elle est soit dans des bidonvilles, soit en prison. Ouais. Là, les statistiques carcérales sont limpides, pratiquement, il n'y a que des Kanaks dans les prisons sur le terrain de la Nouvelle-Calédonie. Alors c'est lié, effectivement, à une jeunesse un peu désemparée, qui ne trouve pas de travail, qui est mal logée dans les banlieues de Nouméa, etc. Bon, tout ça est lié. Elle confirme que les événements du 13 mai ont créé une dynamique nouvelle, on le sait, met en garde les non-indépendantistes sur les spéculations et les postures politiques qui mettent en danger le destin commun construit tout au long des accords politiques. Là encore, ils insistent en disant « on a construit, on a des projets, on a un destin commun pour ceux qui veulent la partager. Nous, on est chez nous, on y restera. S'il y a d'entre ceux qui sont là, qui sont arrivés bien, bien après nous, plusieurs milliers d'années après, qui veulent rester, ils ont leur place. Il s'agit, on ne va pas régler les questions à coups de couteau. Ils ont leur place. S'ils ne veulent pas, ils s'en vont. Hein ? Mais on ne jettera personne à la mer. Que les choses soient claires. »
Il y a un peu de tout. Ouais.
Eh oui. Et ils disent, décident de redéfinir l'organisation des relations extérieures afin de renforcer les alliances avec des organisations régionales, nationales et internationales, telles que le groupe Fer de Lance mélanésien, le mouvement des non-alignés, le Front international de décolonisation de l'ONU et les organisations non gouvernementales concernées. C'est-à-dire qu'ils ont un jeu très très clair de se mettre sur la scène internationale, de dire il faut que la volonté de décolonisation soit mise en œuvre. Nous n'allons tuer personne, mais il faut que ça avance, et maintenant ça va avancer. Et j'insiste d'autant plus là-dessus que M. Valls, qui est chargé des départements d'outre-mer, a été très très discret à la suite de cette prise de position du Congrès du Front de Libération Nationale, la Kanaki socialiste. On n'en parle pas. Mais oui, parce que lui, il doit se rendre compte qu'effectivement, la situation n'est pas si simple. N'est pas si simple. Et que les agitations macroniennes, de fait. Alors, probablement, le Charles de Gaulle, le porte-avions, il est par là-bas en ce moment, puisqu'il a fait des manœuvres avec les Japonais. Mais tout ça, c'est de la frime. Alors, à propos de porte-avions et de Valls. Je fais référence à des manœuvres qui ont cours en ce moment au large de la côte orientale de l'Afrique, manœuvres qui sont organisées par l'Inde et où pratiquement tous les pays riverains donc de l'Afrique orientale sont participants. Ça se passe autour de Dar es Salaam, donc la capitale de la Tanzanie. Ça met en jeu le Mozambique, ça met en jeu le Kenya, ça met en jeu l'Érythrée, ça met en jeu encore Djibouti, ça met en jeu les Comores en tant qu'État. Ouais. Hein? Et donc ça veut dire que tous ces gens-là, ils sont d'accord pour manifester, enfin pour faire des manœuvres collective militaire, donc ils se connaissent, ils sont d'accord là-dessus. Ce qui les préoccupe, c'est la piraterie, principalement dans ces régions-là, le trafic de drogue aussi à l'occasion. Et ça veut dire que la France est bien bien embêtée parce qu'elle se trouve très très isolée au milieu de cet environnement. Parce que si vous mettez l'Inde plus tous ces gens-là, vous avez carrément la moitié de l'Afrique qui est contre vous. Quelle est la réponse de la République française? Devinez, Monsieur Lecornu va installer une base militaire à Mayotte. Alors, Mahorais, vous pouvez continuer à vivre sous des tentes et sous des maisons en tôle. L'important, c'est que l'armée française s'installe pour montrer que la France résiste seule à ces menées internationales insupportables. Voilà. Voilà. Ça fait partie de la comédie macronienne. Hein. Je suis un grand chef d'État. Alors, j'ironisais parce que vous savez que Victor Hugo appelait Napoléon III Napoléon le Petit. Et alors, je cherchais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Alors, je trouvais c'est Napoléon le Minuscule. Parce que je vois que ça. Et à ce propos, alors ah si, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que vous savez, ces derniers jours, l'ambassade de Russie à Paris a fait livrer un colis à l'Élysée, et dans ce colis à l'Élysée, il y a des soldats de plomb. Voilà. Comme quoi, ils ont bien pris la mesure du personnage, mais le personnage peut encore nuire. C'est ça qu'il faut que nous sachions. Voilà, ça c'était bien de le rappeler. Il nous reste presque rien. Deux minutes, je regarde si j'ai oublié des choses. Je vais parler de la canne à qui je l'ai dit.
Après quelques secondes pour la manif.
Oui, alors, voilà. Non, simplement rappeler que, quand même, ça mérite d'être dit, parce que c'est les aspects militaires. Le porte-avions Harry Truman est en train de fuir. Alors, pourquoi il fuit? Parce qu'on apprend qu'effectivement, les missiles, les gros missiles qui peuvent être tirés depuis le porte-avions ont été endommagés et qu'il est obligé d'aller faire réparer le porte-avions parce qu'il ne peut plus se servir de ses missiles. Donc, il ne sert à rien. Il ne sert tellement à rien qu'il y en a un autre qui était au Japon ou au large de la Corée qui est en train de venir vite, vite pour prendre sa place. C'est le porte-avions Vinson qui est en train d'arriver. Mais ça parce qu'effectivement, l'air de rien, les tirs des outils sur le porte-avions Harry Truman ont rendu le porte-avions inopérationnel.
Oui.
Que les choses soient claires. Alors, on dit que c'est la faute à l'Iran.
Ils ont bombardé aussi l'aéroport Tel Aviv. Ben-Gurion.
Voilà, Tel Aviv. C'est-à-dire qu'effectivement, comme effectivement Israël ne respecte pas la trêve et n'a jamais eu envie de la respecter, les outils ont été très clairs. Maintenant, on a constaté que vous ne respectez pas la trêve. Pour nous, c'est terminé. Et donc, on recommence à tirer sur Tel Aviv. Et donc, là, il y a quand même de grosses paniques parce que quand il arrive des missiles outils sur Tel Aviv, il y a une panique dans la société israélienne. On en reparlera certainement, sent bien qu'il y a une crise interne qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est intéressante.
On devait parler un peu des outils, là, sincèrement, parce que bon, c'est un pays qui n'est pas riche.
Non, mais c'est un pays qui a une...
Elle prend une position dans le monde arabe, la position la plus...
Voilà, et c'est un pays qui a de l'histoire. Et je rappelle qu'à un moment donné, le Yémen, donc les Houthis, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, ont résisté à Nasser qui voulait tirer dessus. Donc ça ne veut pas dire qu'ils obéissent à n'importe qui parce qu'il est dans le camp des Arabes. Le Yémen est le pays arabe le plus costaud dans sa tête, le plus capable de résister à toute influence.
Chaque vendredi, il y a des millions qui sont en train de manifester.
Alors, comme on est au bout, merci Roselyne. Et puis donc on rappelle.
Je voulais dire tout simplement, Roselyne, ne pas couper, le 29 mars à 14h, on fait une manifestation contre l'obscurantisme et l'extrémisme. J'invite tout le monde à venir, et tout particulièrement nos frères kurdes alaouites, qui ont une grande manifestation, une grande association à Marseille. Je les invite avec grand plaisir, et comme ça on pourra discuter, parce que je connais très mal le problème kurde alaouite. Voilà.
Parfait.
Merci.
Merci, parfait. Merci, Roselyne. Voilà. Et donc, tout le monde à la manif samedi, 14h, devant la préfecture. Voilà.